Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être avec nous pour cette rencontre avec Corinne Royer, qui a publié chez Actes Sud Pleine Terre, Florian Delmas, auteur de Planète A, Plan B, aux éditions Coup de cœur, et Bruno Verjus, qui sera avec nous dans quelques minutes, auteur de L'Art de nourrir, c'est publié aux éditions Flammarion. Bonjour à tous les deux, et merci d'être aujourd'hui avec nous à Brive. Corinne Royer, ce roman, Pleine Terre, est inspiré d'une histoire vraie, d'un fait divers récent, 2017, mais le personnage de Jacques Bonhomme, qui est au cœur de ce roman, ce paysan qui fuit, c'est vraiment un personnage de fiction, un personnage qui est le fruit de vos rencontres avec des agriculteurs qui vous ont raconté ce qu'était le travail de la terre. À quel moment est-ce que vous avez su que vous aviez envie de raconter cette histoire? Bonjour Bruno. Et quelle histoire, celle de ce personnage, mais à travers lui finalement quelque chose de bien plus grand?
Oui, effectivement, moi je vis au plus près de ce qu'on pourrait appeler le malaise paysan contemporain, puisque j'habite au milieu des agriculteurs et des fermes. Donc c'est vrai qu'au fil de ces dernières années, les discussions dans les campagnes sont devenues de plus en plus tragiques. C'est quelque chose que j'ai vraiment vu arriver, c'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti. Et donc, à force de rencontrer tous ces agriculteurs et qui puissent me confier justement la façon dont ils vivent aujourd'hui leur métier, ce que ça signifie aujourd'hui être agriculteur en France, j'ai décidé de m'emparer de ce sujet. Et j'avais en réalité commencé à travailler déjà sur le roman avant qu'un soir dans une ferme, justement, un agriculteur me raconte ce fait divers récent, donc de 2017, de cet agriculteur en Saône-et-Loire qui a subi un acharnement administratif pendant 3 ans.
Jérôme Laronze.
Voilà, Jérôme Laronze. Et le dernier contrôle sur sa ferme s'étant extrêmement mal passé, c'est un agriculteur qui est parti, qui s'est retrouvé en cavale, poursuivi par les gendarmes, qui s'est réfugié dans les bois pendant 9 jours et 8 nuits. Donc évidemment, personne ne sait ce qu'il a fait pendant ces 9 jours et ces 8 nuits. Et c'était pour moi, c'était ce blanc-là qui m'intéressait de creuser. Donc c'était pour moi un formidable matériau romanesque. Donc le roman va suivre ce personnage pendant toute cette cavale. Et puis il va y avoir des témoignages de gens qui l'ont côtoyé, une sœur, un ami, etc. Et qui vont permettre au lecteur de comprendre petit à petit comment aujourd'hui dans notre société contemporaine on peut en arriver là, comment un agriculteur qui n'a tué personne, n'a blessé personne, n'a même volé personne, peut se retrouver poursuivi comme un criminel.
Et on va bien évidemment parler de toutes ces voies de ce roman. Vous le disiez, votre personnage va fuir, la cavale dure 9 jours. C'est un homme révolté, c'est un homme qui dit non, qui refuse le système productiviste, qui veut un autre rapport à l'animal, à la terre que ce qu'on lui impose.
Oui, pendant l'écriture de ce texte, et c'est un petit peu ce que j'ai ressenti moi en rencontrant tous ces agriculteurs, c'est que ce sont des gens qui aujourd'hui se rendent compte que ce modèle productiviste va dans le mur, mais qui proposent autre chose. C'est-à-dire que ce sont des gens qui disent non, qui refusent ce système, mais qui ne sont pas dans la résignation. C'est vraiment des bâtisseurs, c'est vraiment des hommes révoltés dans ce sens-là. C'est des gens qui refusent, mais qui ne renoncent pas. Et Jacques Bonhomme, le personnage du roman, est vraiment dans cette posture. À aucun moment, alors que c'est un homme traqué, c'est un homme poursuivi, qu'il a abandonné sa ferme, il a abandonné ses bêtes, il est dans une situation terrible, tragique. Mais il va rester debout jusqu'à la fin. Et il va garder ses espérances jusqu'à la fin.
Bruno, dans L'Art de nourrir, publié chez Flammarion, bonjour. Vous partagez avec les lecteurs des années de réflexion autour de votre cuisine, autour de l'art de nourrir. Il est question de générosité, d'émerveillement, de transmission. On va en parler de tous ces mots-clés. Vous avez ouvert votre premier restaurant à 54 ans. Vous êtes médecin de formation, cuisinier autodidacte, chef étoilé. Vous préférez cuisinier autodidacte à cette dernière dénomination. Plusieurs passages de votre livre peuvent faire écho finalement à ce qu'on vient de dire. Je pense notamment au fait que vous n'aimez pas le mot « ingrédient ». Ce sont des produits et ce n'est pas du tout la même chose. Et ça dit aussi le rapport au producteur de ce produit.
Oui, bonjour à vous tous. Excusez-moi, j'arrive en retard un peu, mais j'ai succombé aux délices du confit de canard. Donc voilà. Bon,
écoutez, on ne peut que vous pardonner, autant, c'est le confit
autant,
de canard.
Autant vous l'avouer tout de suite, dans cette bonne ville de Brive. Alors, oui, quand j'ai créé Table, l'idée c'était ça, c'est dire le postulat de départ, c'est de la façon dont on se nourrit des sites du monde dans lequel on vit. Donc il était absolument pour moi tout à fait évident de m'adresser à des producteurs qui, en plus de faire des produits exceptionnels, créent du sens, c'est-à-dire ceux qui sont à l'opposé de ce que vous décriviez aussi sur cette agro-industrialisation qui va toucher y compris les terres, et surtout les terres d'ailleurs, c'est-à-dire de creuser la planète pour finalement la fossoyer et inventer ensuite tout un tas de discours ou de conférences. Il vient d'en avoir une à Glasgow pour s'affranchir en réalité de ce qui est simplement le bon sens. On a oublié le bon sens dans le rapport au monde, c'est-à-dire de prélever sans épuiser, de régénérer, et d'avoir simplement une attitude où on se dit tous les matins, je suis là et j'ai envie de vivre ici parce que c'est formidable, parce que je suis un contributeur à ça. Donc Table, c'est le restaurant qui est né de ça après mes émissions sur France Culture, et de dire, voilà, si je nourris avec ces produits exceptionnels, je vais nourrir plus que le corps, je vais nourrir l'âme, parce qu'il est plus important quelquefois de nourrir l'âme que le corps, et je vais planter surtout des graines à la façon d'un paysan, je vais lancer mes semences par cette belle nourriture qui pour certaines vont germer, pousser, fleurir et probablement refaire des graines, et qui vont permettre à chacun de justement de s'inscrire dans une forme de vertu.
Et quand je faisais la distinction entre ingrédients et produits, ce que vous dites, c'est que derrière le produit, il y a la main de l'homme.
Oui, ben, si vous voulez, c'est la vraie question. Alors après, il faut remettre les choses dans le contexte. Je suis à Paris, je ne suis pas à Brive. Donc on a un rapport au monde qui est un peu différent. On a la chance d'avoir tous les territoires qui convergent vers nous. C'est comme ça. C'est le principe de la centralisation. J'y suis pour rien, mais on en profite d'une certaine façon, parce qu'on a des choses absolument exceptionnelles. Et quand on parle, alors bah, par exemple, voilà, je le raconte, quand les gens arrivent, et c'est essentiellement des populations comme ça un peu précieuses, et qui viennent avec leur liste d'allergies, qui sont globalement à peu près ce qu'ils aiment pas manger, et puis évidemment, il y a quelques allergies pathologiques, mais il y en a assez peu, et favorisées d'ailleurs par des médecins escrocs qui dosent n'importe quoi en expliquant, attention, plus manger de lait, vous pouvez plus manger de poulet, plus manger d'œufs. Mais de quoi on parle? Moi, je mange pas du poulet. C'est dégueulasse. Le poulet, c'est quel poulet? Le poulet industriel élevé en 30 jours, ou alors une belle volaille ancienne qui assure sa croissance sur une année? De les œufs, c'est pareil. Le lait, c'est pareil. Enfin, vous l'avez compris. Un lait de vache jerseyaise avec un grand taux butyrique, un peu gras, que cette crème magnifique, ça peut faire que du bien. Évidemment qu'un lait agro-industriel traficoté 12 fois, etc., etc., c'est une saloperie. Donc c'est un peu ça l'idée, c'est de dire, il faut avoir conscience de cette manipulation généralisée par les grands groupes agro-industriels qui fourrent dans la tête autant de choses toxiques qu'ils en mettent dans votre corps. Il y a une proportion qui est un peu respectée.
Et on va en parler aussi, mais vous encouragez chacun à augmenter sa bibliothèque de goût. C'est quelque chose de très beau. J'aime beaucoup cette expression, cette bibliothèque de goût, et également d'être sensible à la nature et de savoir reconnaître effectivement dans la nature des plantes qui sont tout à fait comestibles, et qu'on est très déconnecté de ça. Vous parlez de Paris notamment. Moi, j'habite à Paris, et c'est vrai que je ne vais pas tous les jours dans un parc ou dans un bois pour essayer de reconnaître. Et je me sens très perdue quand je vais dans la nature, parce que je me rends compte que je ne sais reconnaître presque aucune plante, aucun arbre. Mais on va revenir là-dessus. Florian Delmas, vous publiez, je le disais, chez Coup de cœur édition Planète A, Plan B. Vous êtes petit-fils d'éleveur et directeur général du groupe Andros. Le plan B, c'est le plan qu'il est nécessaire de mettre en œuvre, parce que justement, il n'y a pas de planète B. Un plan qui est basé sur le postulat suivant, vous me corrigez si je me trompe, que l'entreprise doit envisager les écosystèmes comme des biens communs prioritaires et reconnaître l'interdépendance qui lie l'humain à la nature. On s'est trop déconnecté, c'est lié à ce que je viens de dire, de l'écosystème dans lequel on vit.
Alors effectivement, le premier titre du bouquin s'appelait « Déconnexion », mais il est devenu « Planète A, Plan B », donc il y a cette notion de déconnexion de l'être humain avec son environnement. Préalablement à ça, je voudrais dire que je suis né de la terre, c'est comme ça que je me caractérise. Je suis un petit-fils de paysan, éleveur en Lozère de Rassobrac. Je connais le monde agricole depuis ma plus tendre enfance. Et j'ai voulu être un trait d'union entre le monde des affaires dans lequel je suis aujourd'hui et ce monde rural dans lequel duquel je viens et ses racines. Et j'ai été choqué lorsque je suis rentré dans le monde de l'entreprise de voir à quel point l'entreprise était considérée comme le problème dans nos sociétés modernes, alors que je suis convaincu qu'elle est la solution économique, écologique et sociale pour amorcer une nouvelle ère de progrès. Cette nouvelle ère de progrès, elle s'appelle la cité essentielle, société pour l'essentiel, faire société pour l'essentiel. Finalement, qu'est-ce qui est essentiel? C'est notre planète. Et pour bien comprendre quel est le postulat de ce livre, il s'agit de réconcilier écologie et économie. Deux mots que tout le monde veut opposer et qui pourtant, vous allez voir, ont des racines communes. Quand vous reprenez l'étymologie des mots écologie et économie, vous retrouvez un préfixe, c'est éco. Éco, en grec, ça veut dire oikos. Oikos, c'est la maison, notre maison commune, la planète sur laquelle nous habitons. Et lorsque nous prenons le suffixe nomi, qui veut dire nomos, ça veut dire le mode d'administration de notre maison. A contrario, logis, logos, en grec, signifie l'interdépendance entre l'ensemble des habitants sur la planète. C'est la science qui permet d'analyser l'interaction entre l'humain, le vivant, la planète, la biosphère, et ainsi de suite. Et donc finalement, qu'est-ce que l'on constate aujourd'hui? C'est que le mode d'administration de notre maison, donc le modèle économique, est devenu prédominant sur notre maison elle-même, c'est-à-dire l'écosystème sur lequel nous habitons. Et donc il est indispensable et nécessaire de réconcilier les deux si on veut avoir du progrès social, ce qui est, je pense, notre volonté commune ici autour de la table.
Et comment on fait ça? Juste avant de monter sur cette estrade, vous me disiez que vous présentiez ce livre dans les écoles, dans les administrations, justement pour qu'il y ait cette sensibilité-là. Mais voilà, vous dites « je veux être le trait d'union ». Comment est-ce que c'est facile d'être ce trait d'union? J'ai l'impression que ce n'est pas si évident que ça.
Écoutez, ce n'est pas évident en Suisse. Il suffit d'être simple, pragmatique et sensible finalement à ce que l'on est en tant qu'individu et être humain. Il y a trois éléments clés, moi, qui me marquent lorsque je peux parler à différentes personnes. On doit reconsidérer trois choses pour pouvoir faire bifurquer notre modèle dans lequel on est depuis 70 ans à peu près. Le premier, c'est comprendre la planète sur laquelle nous vivons. Je suis étonné dans les écoles de commerce de voir à quel point les gens sont déconnectés des ressources qu'ils vont pouvoir utiliser pour faire tourner un modèle écologique, économique. Il y a une méconnaissance totale de qui nous sommes. Et pour bien comprendre les choses, il suffit simplement de se dire que le monde est constitué de ressources renouvelables et de ressources non renouvelables. Les ressources non renouvelables, plus on en prend, moins il y en a. C'est simple, que vous allez du centre de la Terre jusqu'au haut de la biosphère, lorsque l'on aura tout capté ces ressources renouvelables, on n'en aura plus, et donc on ne pourra plus imaginer faire tourner un modèle économique qui s'est bâti autour des ressources. Et il y a les ressources qui sont renouvelables, ces ressources renouvelables, elles, si on va les épuiser un peu trop rapidement, eh ben elles deviennent non renouvelables, et elles deviennent et elles disparaissent. Une fois qu'on a compris ça, on peut imaginer faire de la politique publique, on peut imaginer faire un restaurant, on peut imaginer être agriculteur, on peut imaginer être entrepreneur. Mais quand on a conscience de cet élément-là, du rapport que l'on a avec l'environnement, donc les ressources dont nous disposons, on a déjà une nouvelle façon de penser le monde dans lequel on peut habiter. La deuxième chose qui me marque et qu'il faut considérer, c'est de passer d'une vision monocentrée à une vision multicentrique. La vision monocentrée, c'est l'entreprise finalement qui ne considérait que l'actionnaire ou le client comme étant sa priorité. Et il est fondamental aujourd'hui d'avoir une vision multicentrique, autrement dit de considérer l'ensemble des parties prenantes de notre écosystème avec lequel nous travaillons. Notre fournisseur, celui qui a fourni le matériel agricole à l'agriculteur, l'agriculteur qui lui-même mène son travail dans ses champs, l'ensemble des gens qui entourent l'agriculteur et qui lui permettent d'avoir un verger qui est performant avec des interactions qui ne sont pas forcément dépendantes de lui-même, l'industriel avec tous les gens, et ainsi de suite. Dès lors que vous avez cette vision multicentrique, vous considérez le monde qui vous entoure de façon tout à fait différente. Et pour mieux comprendre le multicentrisme, il n'y a aucun parti pris politique, ne vous inquiétez pas, c'est que nous venions d'un monde un peu monocentré sur le plan politique, il y avait la droite, le centre et la gauche. La vision multicentrique, c'est un petit peu l'approche macronienne, celle qui consiste à dire « je ne suis pas au centre en opposition à la droite et à la gauche, je me mets au milieu et je vais aller capturer le meilleur de toutes les idées qui existent ». Aucun parti pris politique de ma part, simplement pour bien comprendre ce que c'est cette notion multicentrique, c'est « je dois avoir conscience de tout ce qui m'entoure et prendre le meilleur dans tout ce qui m'entoure ». Troisième élément fondamental, et ça c'est ce que j'appelais le logiciel, le deuxième point. Le troisième point, c'est la boussole. Il nous faut changer de boussole, et je vous rendrai la parole ensuite, puisque notre monde économique a été bâti sur un indicateur mondial qui s'appelle le produit intérieur brut, autrement dit la richesse que l'on génère. Et ça vient du modèle américain en 1934 qui a défini la comptabilité mondiale en disant « le plus fort dans le monde sera celui qui génère le plus de richesse ». Et donc tout a été basé sur ce progrès économique qui très rapidement dans les années 1950 a été corrélé au progrès social. Et c'est là où il y a une erreur aujourd'hui puisqu'on constate tous les méfaits sociaux qu'il peut y avoir avec notre modèle économique. Et donc, dans le livre, vous découvrirez un nouveau schéma qui consiste à déduire du produit intérieur brut le coût carbone intérieur net, en considérant que le progrès économique est lié au progrès social et que c'est l'alliance des deux qui, est lié au progrès environnemental et que c'est l'alliance des deux qui génère le progrès social désormais.
Florian, gardez ce micro encore une seconde pour une réponse très courte. Vous avez écrit ce livre avant la crise du Covid.
Tout à fait.
Mais la crise que nous avons traversée, que nous continuons d'ailleurs à traverser, provoque un retour à l'essentiel. Ce premier point que vous évoquiez, cette reconnexion, on a l'impression qu'en tout cas, notre rapport au vivant est de plus en plus questionné, qu'un bon nombre de citoyennes, de citoyens s'interrogent plus, en tout cas, que par le passé à ces questions-là. Vous pensez que sur le long terme, ça peut avoir un impact, ou bien est-ce qu'on va retourner à la vie d'avant ?
Je suis plutôt inquiet. Du mois de mars 2020 au mois de décembre 2020, j'étais plutôt optimiste en me disant « ça y est, les gens commencent à comprendre, les ressources sont finies, la terre est limitée, on ne peut pas exploiter tout ce que l'on a, il faut bifurquer dans notre modèle économique, sinon on n'arrivera pas à faire vivre notre planète ». Et je pense qu'on est reparti de plus belle, il suffit de voir le taux de croissance qui s'appelle le PIB, qui est reparti à plus de 4% au niveau mondial. Le PIB est étroitement lié à l'énergie, c'est le pétrole, donc ça veut dire le CO2, donc le CO2 égale le problème que l'on connaît depuis 70 ans. Donc ça, c'est ma part d'inquiétude, et je pense qu'il a révélé en revanche des fragilités dans nos sociétés. Je ne sais pas si vous connaissez la pyramide de Maslow, mais cette pyramide dit que l'émancipation de toute société humaine dépend étroitement d'éléments physiologiques. Et la première chose que l'on fait lorsque l'on naît, c'est qu'on respire. Et le Covid nous a rappelé que quand on respirait plus, on mourait. La deuxième chose que l'on fait, c'est qu'on boit. Si on boit plus, on meurt. Donc si on n'a plus d'eau sur la planète, on meurt. Et la troisième chose, c'est que si on mange pas, ben on peut imaginer avoir du pétrole, des belles voitures et des beaux avions, on n'ira pas bien plus loin. Donc je pense qu'on est revenu à cet essentiel qui est de nourrir les populations. Et surtout de considérer que si une famine devait revenir, on vivrait des méfaits sociaux. C'est ce qui a existé, n'oublions pas, avant 1950, il ne se passait pas 10 ans en Europe sans qu'il y ait une famine. Nous avons oublié que la nourriture nous vient dans la bouche aujourd'hui quasiment de façon automatique et immédiate. Le Covid aura été ce révélateur pour des enjeux démographiques, il y a de plus en plus de monde sur la planète, pour des enjeux géopolitiques, il y a la Chine qui veut asphyxier d'une certaine manière certaines puissances et elle le fait par l'agroalimentaire, elle ne le fait pas exclusivement par le pétrole et la technologie. Elle est en train de capturer des sources de matières premières en Afrique et en Europe notamment, et c'est quelque chose sur lequel on est assez naïf, je trouve, en tant que Français et Européen. Et enfin, il y a des enjeux qui sont écologiques, je dirais, puisqu'il ne se passe pas une année sans aléa climatique qui vient décimer des cultures entières et qui viendrait empêcher des populations de pouvoir se nourrir. Et on sait que s'il n'y a pas de nourriture sur une planète, il y a du désordre social. Quand il y a du désordre social, il y a la guerre. Quand il y a la guerre, c'est peut-être pour construire un nouveau monde. Ça, c'est le côté optimiste.
Corinne, notre rapport au vivant est de plus en plus questionné. Cette situation des agriculteurs, même si bien évidemment on en parlait par le passé, on devient une préoccupation plus prégnante, vous avez le sentiment ?
Oui, il y a plusieurs choses là pour rebondir effectivement sur le terme richesse. Tout dépend ce qu'on met derrière ce terme, et je crois que c'est un peu ça le glissement qu'il faut opérer aujourd'hui, c'est-à-dire que la richesse, c'est pas forcément les profits et c'est pas forcément la dimension économique. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a une richesse première qui est effectivement celle qu'on est en train de perdre. C'est celle de notre environnement, c'est celle de notre nature en sursis. On en est tous conscients avec les problèmes du réchauffement climatique notamment. Et puis cette richesse, c'est surtout replacer l'humain au cœur de nos sociétés. Et pleine terre, je crois que c'est vraiment peut-être que le sujet central de ce texte, c'est ça, c'est-à-dire que on utilisait aussi le mot déconnexion. Aujourd'hui, ce qu'on retrouve dans nos assiettes, le consommateur en est extrêmement éloigné. Il en est éloigné géographiquement parce que souvent ça vient de très loin, mais il en est éloigné aussi parce qu'il y a des tas d'intermédiaires entre le producteur et le consommateur. Donc il faut vraiment recréer ce lien. Moi, j'ai dans mon petit village un magasin qui s'appelle le quart d'heure paysan. C'est des producteurs locaux, hein, donc qui vendent leurs produits, et c'est eux-mêmes qui viennent faire une permanence pour vendre ces produits. Donc la personne à laquelle on achète ce qu'il va y avoir dans notre assiette, on l'a en face de nous, on la regarde dans les yeux, et ça change complètement le rapport. Et c'est vrai que toutes les initiatives aujourd'hui qui tournent autour de la notion des circuits courts, permettent peut-être ce rapprochement-là. Et je crois que c'est vraiment une perte de sens en réalité. On parlait tout à l'heure du plaisir du repas. Il ne faut pas oublier que c'est le repas, c'est l'acte social qu'on reproduit le plus souvent dans notre existence. On dit que quelqu'un qui va vivre à peu près jusqu'à 65-70 ans va commettre cet acte 70 000 fois dans son existence. Mais au-delà de remplir un ventre, c'est effectivement un lien social, le repas, c'est d'abord ça. Donc oui, bien sûr qu'il faut qu'on retrouve toutes ces valeurs-là, et ce que Pleine Terre tente d'exprimer, c'est que le modèle qui est aujourd'hui imposé par la PAC, par la politique agricole commune, et par le système beaucoup plus globalement, et qui est en train de faire disparaître la petite paysannerie de notre territoire, c'est un système qui est arrivé au bout de ce qu'il pouvait faire. Il y a eu la promesse de l'industrialisation, il y a eu la promesse de la chimie. Les consommateurs y ont cru, les agriculteurs y ont cru. Aujourd'hui, on est arrivé au bout de ce système-là. Et je crois qu'effectivement, peut-être que ce temps de la pandémie a permis de se remettre ces questions, en tout cas dans notre quotidien.
Vous parliez de l'importance de l'humain. Pleine Terre, c'est un roman polyphonique. Il y a donc plusieurs personnages qui racontent. Et parmi ces personnages, il y a Pierre, qui est un agent de l'administration, qui dit, je vous cite, « Il faut bien en convenir, s'adapter en fonction des difficultés de nos interlocuteurs, ce n'est pas dans l'air du temps. » On retrouve là cette absence d'humanité qui est expliquée. Il explique qu'il y a de moins en moins d'effectifs. Et c'est important pour vous aussi de montrer ce versant-là, de montrer que c'est toute la chaîne en fait qui déconne.
Oui, dans le roman, parmi les personnes qui témoignent et qui vont faire comprendre ce qui est arrivé à cet agriculteur, cette terrible spirale, évidemment, je me suis tournée, moi, et j'ai cherché à comprendre ce qui se passait du côté des agents de l'administration qui imposaient ces contrôles punitif, parce que c'est vraiment ça sur les fermes. Et le discours de ces agents, il l'amène à une conclusion assez simple, c'est que c'est un problème systémique. C'est pas un problème de personne. C'est pas de vilains et de méchants agents de l'administration. C'est vraiment le système qui fait que, par la baisse des effectifs, par le fait qu'ils doivent faire de plus en plus de contrôles sur les fermes dans une journée, qu'ils connaissent pas les dossiers, qu'ils savent pas s'ils arrivent sur une ferme qui est déjà fragilisée, qu'ils ont même plus le temps de partager un café avec l'agriculteur, les choses se sont extrêmement tendues. Et cette déshumanisation est peut-être le véritable problème de ce rapport de plus en plus tendu entre l'administration et les agriculteurs.
Vous dites, j'ai été voir des personnes qui travaillaient dans l'administration pour échanger avec elles. Parmi les témoins, il y a aussi le vieux Baptiste, qui est un vieux paysan très, très militant. Votre voisin tout craché, vous ai-je entendu dire ?
Oui, tout craché, non, parce que le roman reproduit jamais un personnage du réel totalement, mais nous, romanciers, on s'inspire toujours effectivement des gens qu'on connaît, de nos rencontres, des situations qu'on vit au quotidien. Enfin, l'écriture, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment piller le quotidien. Donc oui, ce vieux Baptiste, c'est un personnage assez rieur, en fait, dans le roman, qui a un langage assez fleuri. Qui dit à un moment qu'il juge que les agents de l'administration ont l'esprit aussi serré qu'une poignée de cul à l'arrière d'une 4L. Donc il est vraiment, lui, dans ce registre. Il en a vu d'autres. Il a 72 ans. Il a déjà gagné un procès contre l'administration. Et effectivement, il va soutenir Jacques Bonhomme autant qu'il le pourra.
Et vous parliez de création, le fait que les personnages ne sont jamais une personne en particulier. Et je vous ai entendu parler du personnage de Jacques Bonhomme en disant, j'évoquais au tout début tous ces agriculteurs et agricultrices que vous aviez pu rencontrer. Et je vous ai entendu à la radio dire que c'était comme si toutes ces rencontres, vous les aviez mises dans un mixeur et que finalement, à la fin, en mixant, ce personnage était apparu, Jacques Bonhomme, qu'il était vraiment le fruit de toutes ces rencontres et un mélange. Après, on peut difficilement dissocier ce qui appartient à qui, mais qu'il est vraiment apparu et il existait à un moment, il était là et il existait pleinement.
Oui, alors, Jacques Bonhomme, c'est un personnage qui a des traits de caractère, forcément, avec le personnage réel du fait divers. Notamment, c'est un amoureux des livres, c'est un amoureux de théâtre, c'est un colosse. Mais c'est aussi un personnage qui a des traits de caractère de beaucoup d'autres agriculteurs que j'ai rencontrés. Et c'est en aucun cas donc le portrait d'une seule personne. Mais je crois que le travail romanesque s'appuie toujours sur ce fonctionnement-là.
Et justement, vous vouliez vraiment complètement affirmer ce parti pris romanesque, c'est-à-dire que vous avez été voir, on l'a dit, des personnels de l'administration, des agriculteurs, mais vous n'avez pas cherché du tout à aller voir les proches de Jérôme Larron. C'était important pour vous. Il y a Florence Aubenas qui a fait un reportage, notamment sur Jérôme Larron. Pour vous, c'était important de justement ne pas avoir cette parole-là et de vraiment prendre pleinement le parti de la fiction.
Oui, alors à peu près au même moment que la sortie du roman, donc mi-août, je crois que ça s'est joué à quelques jours près, Florence Aubenas a sorti 6 articles dans Le Monde autour de ce fait divers. Donc elle a vraiment fait un travail journalistique, elle a rencontré la famille, elle a rencontré les amis, et elle a essayé de faire un portrait qu'on pourrait appeler objectif, par le biais de témoignages réels, de qui était Jérôme Larron. Moi, je ne suis pas du tout dans ce postulat. Effectivement, je voulais, à la limite, surtout ne rien savoir sur son intimité, sur sa vie de famille, plus que je me positionnais d'emblée dans la fiction. Et après, tous les témoignages fictionnels qui sont dans le roman, moi, ce qui m'intéressait, c'était, au contraire du récit journalistique, c'était leur subjectivité. C'est-à-dire que ce soit le vieux Baptiste, que ce soit Arnaud, que ce soit la sœur, que ce soit Marie-Ange, tous ces personnages ne vont pas exprimer la vérité, mais ils vont exprimer leur vérité. Leur vérité selon les liens qu'ils avaient avec le personnage principal, selon leur position dans la société, selon leur propre vécu, et c'est bien sûr cette subjectivité qui m'intéressait. Et puis dans son travail, Florence Aubenas, par exemple, ne parle absolument pas, et elle ne pouvait pas, parce qu'il n'y a pas de témoignage à ce sujet-là, des 9 jours de cavale. Et bien sûr que le seul moyen de s'emparer de ce temps absolument romanesque de la cavale, c'était la fiction.
Bruno, on parlait il y a quelques instants avec Corinne de ces circuits courts qui existaient déjà, mais qui se sont développés aussi avec la crise. C'est vraiment un acte en tant que citoyen qu'il faut avoir à l'esprit. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, mais que peut-être la crise a accentué cette nécessité, encore une fois, d'aller au plus près des producteurs, et ça peut passer justement par le marché. Je sais que je vous ai entendu dire à plusieurs reprises, mais aller sur les marchés, aller acheter.
J'étais au marché ce matin.
Il est bien le marché de Brive ?
Bah, il est extraordinaire. Bah oui, il y a plein de producteurs formidables. Tout ce qui était légumes, les salades étaient dingues. Enfin, je veux dire, il y avait plein de choses. Et puis surtout, il y a une chose qu'on oublie beaucoup et qui moi m'anime, c'est qu'on sentait chez tout le monde, hein, ceux qui faisaient les courses et ceux qui étaient sur les étals, il y avait de l'amour. Il y avait de l'envie de partager des belles choses, les joyaux de leur jardin, de leurs élevages, les fromages. Et ça, c'est ça quand même qui, d'une certaine façon, change le rapport au monde et nous ramène au vivant. C'est-à-dire qu'on parlait du repas comme un lien social. Bien sûr que le repas a été inventé, d'une certaine façon, passer à table ensemble pour créer du lien social, faire de la diplomatie, empoisonner ses ennemis, etc. L'homme est pervers, donc ça c'est tout de suite un peu... Ça a un peu dégénéré, mais le repas et la nourriture, ça doit nous ramener en permanence au vivant, donc ne pas déconnecter, c'est ce que vous disiez, de la réalité de ce qu'ils font avec leurs mains, avec leur cœur, avec leur science, avec leur connaissance. Et c'est comme ça, vous évoquiez tout à l'heure la bibliothèque de goût, ben oui, il y a la bibliothèque des livres, vous êtes tous ici pour ça, et bravo, parce que c'est par le livre qu'on acquiert la connaissance. Et ça, c'est quelque chose de fondamental et qu'on ne doit pas oublier. La connaissance est dans les livres. C'est celle qui nous apprend, c'est celle qui nous fait penser, c'est celle qui nous décloisonne l'esprit pour penser un peu plus haut et différemment. Et la connaissance, elle se fait aussi dès qu'on paraît. C'est l'enfant, la première chose qu'il respire, c'est respirer quand il naît. Mais la deuxième chose qu'il fait ensuite et pendant assez longtemps, c'est tout porter à sa bouche. Parce que d'une certaine façon, c'est goûter pour comprendre. Et puis c'est aussi manger le monde. Et il y a ce rapport à la dévoration qui, moi, m'intéresse toujours, qu'on a tendance à oublier pensant qu'il y a quelque chose d'un peu obscène ou psychanalytique. Et en fait, pas du tout. C'est une façon de comprendre que de manger. Donc, aller sur un marché, goûter des produits, c'est d'une certaine façon... Vous, je ne vous l'apprends pas, vous vivez ici. Moi, je suis né en province aussi, je suis né à Renaison. Mais j'ai appris le monde comme ça, en goûtant les choses. Et après, on sait ce que c'est qu'une bonne salade qui vient d'être cueillie. Quand on a cueilli une laitue, qu'on a le lait qui sort de la racine, qu'on goûte tout de suite la salade. On comprend ce que c'est qu'une bonne salade. Et ensuite, on a un peu de difficulté à aller acheter un sachet de salade sous vide dans un supermarché. Et les supermarchés sont la déhumanisation du... du monde et surtout la négation du vivant. Et ça, c'est une question fondamentale et la crise Covid nous l'a prouvé parce que c'est vrai que l'optique qui a été donnée, c'est une optique, on va dire, de pasteurisation, hein, la pensée de Pasteur, c'est-à-dire de tout hygiéniser, comme si dans notre délire absolu, on allait contrôler la planète et tout organiser. Alors chaque fois qu'on essaie de contrôler, d'organiser, réellement, on fout le bordel. C'est l'histoire de vos administrations qui rentrent dans des lieux sans avoir même, ne serait-ce que l'humanité, justement, qu'on devrait tous se porter les uns aux autres, de parler à l'autre et de comprendre et de dire mais qu'est-ce qu'il me dit, c'est quoi sa vie, comment, parce que moi aussi je suis un petit être humain, je suis pas le bras armé d'une pensée instrumentalisée dans ce qu'elle a de plus délirant et de plus toxique. Donc je crois que c'est ça, tous au marché pour comprendre le monde par la bouche.
Pour le goûter et puis pour s'émerveiller aussi des couleurs, c'est une partie de votre livre, l'émerveillement déjà, qui chaque chapitre a un terme, ça commence sur la générosité, après on a l'émerveillement, mais l'émerveillement pourrait correspondre à tout le livre, c'est-à-dire qu'à chaque mot on sent cette gourmandise et il y a ce plaisir des couleurs, ce plaisir des couleurs.
Porter, il faut toujours porter un regard d'enfant sur le monde parce que c'est en ça que réside la pureté, c'est en ça que réside le désir et l'appétit. Et aujourd'hui on a beaucoup de chance, j'ai vu la lumière qu'il y a ici, moi quand je suis arrivé ce matin, la lumière est absolument fantastique, c'est ces lumières d'automne absolument sublimes qui éclairent les choses et en même temps qui les caressent, qui les amènent dans des douceurs, dans des morts dorés. Et donc oui, bien sûr, la couleur, c'est le symbole de la vie et c'est surtout ce qui donne envie de manger. Quand on construit une assiette, il faut que les couleurs soient très pures, soient très belles et que la main ou la pensée, sur les cuisiniers, ça peut être la pensée, souvent c'est l'absence de pensée d'ailleurs, n'est pas commencé à les abîmer, à les corrompre, à les détruire. Et quand on mange la couleur, quand on mange le produit dans sa vivacité, dans son vivant, dans sa sincérité, eh bien on appartient soi-même à un monde vivant et probablement qu'après on se comporte avec un peu plus de respect avec tout ce qui nous entoure.
Et vous dites ce qui fait, selon vous, la belle cuisine. Vous l'écrivez au tout début de votre livre. Vous écrivez « belle cuisine égale sensibilité plus connaissance ». Il y a quelque chose de très intuitif dans tout ce que vous racontez.
Intuitif, oui et non. C'est-à-dire, c'est vrai que je pense que la connaissance, c'est quand même ce qui nous permet de s'élever dans ce monde. Pourquoi ? C'est simplement pour être capable de le comprendre et puis ensuite peut-être de le formuler, en tout cas d'imaginer des pistes.
C'est la connaissance qui permet de suivre son instinct ensuite.
Voilà, de commencer à élaborer un certain nombre de choses. Et donc ça, c'est quelque chose pour moi de tout à fait fondamental. Et c'est surtout une attitude de responsabilité que chaque personne doit avoir. C'est pour ça que je dis, la façon dont on se nourrit décide dans quelle envie. En fait, bon ben voilà, on va rentrer là, on n'arrête pas de discuter politique, etc., etc. Mais sachez une chose, c'est qu'un des rares pouvoirs que vous ayez, c'est pas celui d'aller mettre un bulletin de vote. On l'a, c'est de la chance de pouvoir voter. Heureusement, mais c'est de savoir auprès de qui on dépense son argent. Si vous allez manger chez McDonald's, si vous allez acheter les produits agro-industriels dans les supermarchés, après, il ne faut pas venir vous plaindre que le monde est injuste, que la vie sociale est injuste, que la terre est en train de dégringoler, etc., parce que vous en êtes les banquiers. En revanche, si vous donnez votre argent à ces petits paysans qu'on a vus sur les marchés et vous nourrissez bien et que vous avez ce comportement responsable, ben oui, vous aurez une grande fierté de vivre dans un monde dans lequel vous allez vous sentir évidemment plus à l'aise et probablement plus en harmonie, mais surtout, vous en serez les financiers. Donc ça, c'est extraordinaire, ne jamais oublier ça. Et donc, ça obligera évidemment, et certains groupes le font déjà, parce qu'ils ne sont pas complètement idiots, à changer aussi leur paradigme et à se comporter autrement et comprendre qu'effectivement, labourer la mer jour et nuit, ratisser la terre, l'épuiser, créer des espèces de grands parkings à fabriquer de la céréale ou des légumes qui ensuite sont dévastés par le moindre orage et créer des problèmes, agrologiques absolument invraisemblables, eh bien, que ce n'est pas ça la solution et qu'il faut penser autrement parce qu'il en ira de leur survie et acculer de cette façon-là, eh bien, probablement qu'ils changeront un petit peu leur raisonnement et leur façon de faire.
Florian, cet acte citoyen, c'est vrai que vous le disiez tout à l'heure, pour
envie
vous,
de dire
les
tous
entreprises.
Au restaurant.
Vous disiez, c'est l'entreprise la solution. C'est,
et vous deviendrez les banquiers des restaurateurs.
Ces actes citoyens, ils peuvent avoir un impact sur les entreprises.
Non, mais évidemment. Donc, une entreprise ne vit pas si elle n'est pas connectée aussi à ses consommateurs. Je voudrais insister sur deux choses, hein, quand même, pour prendre de la hauteur par rapport à ce débat-là. C'est que on est quand même dans un monde qui vise à virtualiser énormément les choses. Donc, je ne sais pas si vous avez vu la dernière invention de Facebook, c'est nous inventer la métaverse, et la métaverse considère que l'être humain va bien vivre dès lors qu'il pourra, dans un monde virtuel, exercer toutes les cochonneries qu'il n'a pas à faire sur l'autre être humain qui est avec lui. Et en fait, quand vous regardez ça de très près, il s'est passé deux révolutions ces 100 dernières années qui changent radicalement le rapport de l'individu avec la planète et le rapport de l'individu avec ses pairs. La première, c'est en 1970, c'est la virtualisation du modèle financier. Dès lors que l'on a arrêté, lorsque je prenais une belle laitue sur le marché, de donner, j'allais dire l'écu, mais disons une pièce ou en tout cas un billet, on a perdu le sens de la valeur des ressources. Puisqu'on ne se rend pas compte combien coûte quand on met une carte à chaque fois, là on est en train de mettre nos cartes, on met nos cartes, on ne se rend pas compte de la valeur des choses. Ça c'est la virtualisation financière, c'est le modèle économique qui nous a amené là. Et il y a une deuxième virtualisation qui s'opère depuis une dizaine d'années qui est tragique, c'est la virtualisation du lien social. L'apparition des réseaux sociaux, cette digitalisation du monde dans lequel on vit, après la déconnexion de l'individu avec ses ressources, nous sommes en train de créer la déconnexion des individus entre eux. On a ce sentiment d'être liés les uns aux autres plus que jamais, alors qu'on est de plus en plus éloignés, puisque c'est pas parce qu'on a 150 amis sur Instagram, Facebook et TikTok qu'on a beaucoup d'amis, et on s'aperçoit que cette virtualisation-là va nous déconnecter en tant qu'individus. Donc je remets évidemment, et je pense qu'on est d'accord tous les trois autour de la table, cette notion de reconnexion indispensable à la ressource, à la planète, mais aussi ne pas se déconnecter en tant qu'individu et être humain. Et le Covid n'était pas le meilleur des révélateurs sur la connexion entre nous, puisqu'il nous a isolés pendant 18 mois.
Et par rapport à ces actes qui peuvent avoir un impact, parce que vous dites que c'est important que ça parte aussi des entreprises elles-mêmes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas compter uniquement sur l'acte citoyen, même si celui-ci est évidemment primordial, malheureusement, aujourd'hui, il ne suffit pas.
Il y a quand même des réalités qu'il ne faut pas nier aujourd'hui. On est dans un monde, je ne sais pas si la France est le centre du monde, on a souvent le sentiment de le croire. Quand on est en France, quand on voyage, on s'aperçoit qu'on ne l'est pas. On est que 66 millions sur 7 milliards, donc il y a quand même d'autres personnes sur la planète qui ne se nourrissent pas aujourd'hui pour un tiers, qui n'ont pas accès à l'alimentation, qui n'ont pas le plaisir d'aller délecter sur une bonne table un bon restaurant. Et c'est ça la réalité du monde aujourd'hui, c'est que 40% des individus se nourrissent mal. Mal soit par un manque d'alimentation, soit par une surnutrition qui apporte à des choses comme ça. Ça, c'est une réalité, on ne peut pas la nier, c'est pas en France, mais c'est le monde. Le monde est ainsi fait. Ce qui est intéressant de voir, enfin en tout cas qui est remarquable, c'est qu'en 1900, quand il y avait 2 milliards d'individus, il y avait toujours 30% de gens qui se nourrissaient mal. Donc en fait, la proportion ne change pas, sauf qu'on n'est plus 2 milliards, on est 7 milliards. La beauté de ce monde, malgré tout, si les proportions n'ont pas changé, c'est qu'on a réussi à nourrir de plus en plus d'individus, donc on a réussi à émanciper des sociétés. Je ne sais pas si en 2020, vous constatez qu'on vit mieux qu'en 1900 et que plutôt que de mourir à 40 ans, on décède à 75 ans. Donc c'est quand même passé des choses extrêmement positives avec le progrès économique et on ne peut pas les renier. En revanche, ce qu'on ne doit pas oublier, c'est qu'il y a eu des changements de modèles sociétaux. Avant 1950, 70% des gens étaient des agriculteurs, étaient une population rurale, mes arrière-grands-parents, mes grands-parents, ils avaient ce que l'on appelait une agriculture vivrière, paysanne, autrement dit, ce qu'ils produisaient était avant tout pour eux, et ensuite ils commercialisaient pour pouvoir acheter les matières premières qu'ils n'étaient pas capables de faire, payer les études à leurs enfants et acheter des vêtements aussi pour leurs enfants. Ça, c'est la réalité du monde de 1950. Rendez-vous compte, il y a trois générations. Certains d'entre vous l'ont probablement connu d'ailleurs ici autour de la table. Et 70 ans après, 2% de la population française est agricole. On est passé de 60% à 2% de la population agricole. Et pourtant, on arrive toujours à nourrir l'ensemble des personnes. Et pourtant, on arrive toujours à satisfaire le besoin de chacun. Ça, c'est une réalité économique. Alors, quelle est la réalité ? Alors, on ne va pas rentrer dans ces analyses-là. On a moins de temps parce qu'on nous a mis au travail ailleurs et ainsi de suite. Allons-nous tous redevenir des paysans ? Allons-nous tous réavoir 200 mètres carrés de jardin avec ses poules et ainsi de suite ? J'ai des poules, moi, c'est mon cas. Mais c'est une vraie question, fondamentalement. Est-ce qu'on va pouvoir revenir à un schéma où plus de la moitié de la société est dans les champs, en train de travailler, faire sa propre agriculture, ce qui est probablement la meilleure solution pour rendre le monde durable. Je rappelle que l'agriculture existe depuis 10 000 ans, elle est née en moins 8 000 avant Jésus-Christ. On a réussi à vivre sur une planète qui vivait bien entre moins 8 000 et 1950, et apparemment, depuis 2000, ça va mal. Donc ça veut dire effectivement que le modèle économique qu'on a construit n'est pas viable.
Vous parlez des différentes générations. Vous avez voulu écrire, d'ailleurs Bruno, si vous dédiez ce livre à vos enfants. Mais Florian, vous avez voulu écrire ce livre aussi pour vos enfants parce que vous observiez, je crois, que justement ils n'avaient pas l'enfance proche de la Terre que vous aviez pu avoir.
Ouais, ça, c'est un drame, mais c'est la nostalgie. donc, effectivement, cette déconnexion, cette connexion que j'ai eue en vivant dans un mas jour et nuit, en travaillant à l'âge de 8 ans dans les champs pendant toutes les vacances, hein, les deux semaines, tous les 6 semaines et ensuite tous les mois d'été, c'est vraiment quelque chose qui rend fort d'une certaine manière parce que ça nous connecte à l'essentiel, ça nous connecte à ce que l'on est. Les relations humaines sont extrêmement fortes, le rapport à l'animal est extrêmement fort, le rapport à la terre est extrêmement fort, la compréhension de l'écosystème et de comment fonctionne finalement l'agriculture est clé. Évidemment, c'est quelque chose que je ne peux pas offrir ou en tout cas qu'ils ne pourront pas vivre de la même manière. Mais je me disais, puisque j'avais une activité ou en tout cas une vie qui était assez trépidante et que je voyageais beaucoup, et je me disais si je dois disparaître, qu'est-ce que je devrais leur laisser ? Ben, en plus d'une mère, je voulais quand même leur laisser un livre qui traduisait un petit peu quelle était ma vision de ce que devait être le monde et un monde dans lequel on peut arriver à vivre à 10 milliards, puisque c'est la réalité qui nous attend d'ici à 2050, et où chacun pourra se sentir bien. Peut-être un peu utopiste.
Bruno, vous dédiez également ce livre à vos enfants, et il est question de transmission aussi dans ce livre.
Moi, ils m'ont obligé, hein, c'était pas un souhait.
Ils vous ont payé ? Non, mais cette notion de transmission est importante. C'est un tout petit passage, mais vous évoquez ce passage, pas lié aux enfants, mais en tant que chef, justement, de transmettre toutes ces valeurs-là aux apprentis qui sont avec vous.
Oui, alors on a une double transmission. J'ai évoqué la première qui est très importante, c'est celle, évidemment, auprès de ceux qui viennent dîner chez moi. Il y a une transmission très puissante qui s'opère. C'est probablement aussi pour ça qu'ils viennent. Et puis, il y a ce travail, évidemment, du chef qui forme ses collaborateurs. Voilà, moi j'emploie 12 personnes, je tiens à préciser que c'est un petit restaurant, hein. On fait 25 ouverts, donc j'emploie énormément de garçons qui ne sont pas des apprentis, sont tous des big fish, qui sont tous très très capés, puisque là, en tout cas j'en ai 3 au moins qui ont été seconds de très grands chefs triplement étoilés à travers le monde, plus 4 même, plus 2 on va dire comique cuisine, et qui sont là effectivement un peu pour le dernier vernis, c'est-à-dire qui viennent partager ma philosophie. Moi, ce que j'ai écrit, c'est un livre de philosophie. C'est pas un livre sur mon restaurant, ça intéresse personne. Et j'ai pas besoin d'écrire un livre pour que les gens viennent chez moi en plus. Donc c'était pas l'idée. L'idée, c'était vraiment partager cet engagement et dire qu'une grande partie de notre métier, justement, c'est former ceux qui seront les chefs de demain, donc ceux qui vont aussi s'adresser aux artisans, ceux qui vont continuer à construire une planète, à éduquer le goût. On a la chance d'être en France, donc on attire des talents du monde entier. Moi, j'ai des gens du monde entier chez moi, et donc ils vont ensuite retourner dans leur pays, justement, et à la fois partager un peu de cette culture française qui, même si on n'est pas leader énormément, il y a quand même quelque chose de puissant dans la culture française, et notamment la littérature, notamment la connaissance, notamment l'art, notamment une façon, un art de vivre à la française qui est quand même très particulier, que quand même le monde entier vient essayer de partager ici très régulièrement. Et donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas mettre à la poubelle, je pense que c'est une de nos grandes fiertés. Voilà, faire en sorte que ces enfants, ils ont entre 24 et 28 ans, qui généralement, après être passés chez moi, s'installent et ouvrent leur restaurant, ça a été le cas des 4-5 derniers, eh bien, voilà, eux-mêmes vont continuer à planter des graines. Et ça, c'est une des très, très, très belles parties de notre métier.
Un livre de philosophie, il y a des recettes aussi à la fin pour celles et ceux qui voudraient s'y essayer.
Je citerai un immense chef qui était Alain Chapelle et qui dit que la cuisine, évidemment, c'est plus que des recettes. Donc, non, ce ne sont pas les recettes, c'est plus que les recettes. C'est-à-dire que c'est vraiment le mode de pensée qui m'a habité pour aboutir à, effectivement, la création d'un plat. Donc, c'est vraiment une façon de rentrer dans ma tête pour comprendre comment le plat a été conçu et surtout pourquoi et à partir de quoi, de façon à ce que chacun se l'approprie et le fasse en dehors de la recette, justement, et fasse la sienne. Parce que je crois que la belle cuisine, c'est ça. C'est pas la réplication de modèles, contrairement à l'agro-industrie qui réplique. Je crois que c'est au contraire générer cette énergie, générer cet appétit en chaque personne pour s'approprier avec ce qu'il va trouver au marché, avec ses goûts, avec ses idées, et qu'il fasse quelque chose. Donc je lui tiens la main, mais en même temps, c'est le moment où on lâche et on dit ben maintenant, allez, vas-y, quoi, c'est à toi. Nourris.
Corinne, Florian le disait tout à l'heure, il y a de moins en moins d'agriculteurs, les agriculteurs sont moins nombreux. Vous disiez que vous aviez prêté à Jacques Bonhomme quelques traits de Jérôme Laronze, notamment son goût du théâtre. Et à un moment, c'est un moment où il est seul en forêt, où il s'interroge sur son métier, sur sa vie finalement, et il se dit que finalement, lui qui voit la vie comme un théâtre, il se dit qu'il aurait peut-être pu incarner d'autres rôles, qu'il aurait peut-être aimé incarner d'autres rôles. Je vous cite, il dit, enfin, vous écrivez, il dit rien du tout.
Non, parfois, non, c'est lui, c'est pas oui. moi.
Parfois, il regrettait de ne pas avoir exploré davantage de rôles, de s'être cantonné à celui attribué par sa naissance au sein d'une famille de paysans.
Ah oui, parce que c'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est que ces agriculteurs aujourd'hui qui sont contraints parfois, et c'est de plus en plus le cas, à cesser leur activité, mais il y a quelque chose de quand même très très particulier, c'est que généralement c'est des terres qui ont et des domaines qui ont été hérités parfois de plusieurs générations, en l'occurrence pour Jacques Bonhomme c'est 5 générations. Cesser l'activité d'une exploitation, c'est pas seulement se remettre en cause soi-même, mais c'est le sentiment cruel, voilà, de trahir toutes les générations qui ont précédé. Donc il y a là un poids, une culpabilité qui est, je crois, qui est assez bien exprimée dans le texte et qui est assez terrible. Après, le roman a reçu le prix du roman engagé à Moinsartou il y a à peu près 3 semaines. Au festival de Moinsartou, et un agriculteur qui avait vu que j'allais recevoir ce prix m'a envoyé un message en me demandant si je pouvais le lire lors de la remise du prix. Et ce message parlait exactement de ça, parlait du problème démographique dans les campagnes. Il y a de moins en moins d'agriculteurs, donc il y a de moins en moins d'enfants d'agriculteurs, et sur la nécessité d'aller puiser justement de nouveaux agriculteurs ailleurs que dans les familles d'agriculteurs. Et je crois que peut-être que la sensibilité qui s'opère, la conscience qui est en train de s'opérer par rapport à ce grand chaos de notre société, notre rapport au vivant, tout ce qu'on a évoqué ensemble, va peut-être pouvoir générer des vocations et faire en sorte qu'on puisse renouveler ce vivier d'agriculteurs.
C'est bien de terminer sur cette note un peu positive. Ouais. Je vois qu'il reste malheureusement que quelques toutes petites minutes ensemble. Est-ce que certaines ou certains d'entre vous auraient des questions? Pas de questions? On reste sur cette note positive alors. Oui, Florian, vous vouliez ajouter quelque chose?
On va peut-être rajouter encore une note positive, c'est que quand on voyage à travers le monde et qu'on voit la culture culinaire et alimentaire, la France a la plus belle. Et ça doit être une fierté, très sincèrement, pour diverses raisons. Nous disposons, avec l'Iran, nous sommes les 2 pays au monde qui disposons d'une diversité de terroirs qui nous permet de cultiver et d'élever une très grande diversité de produits agricoles, de matières premières agricoles. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Deuxièmement, sous l'impulsion d'un certain général, il y a eu la création d'une agriculture qui a permis malgré tout, et il faut remettre en cause le modèle aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier que quand il a été créé, c'était après la guerre et qu'il y avait plus de la moitié de la population qui ne mangeait pas. Donc il fallait leur trouver de la nourriture avant tout. Donc on a un modèle agricole qui est reconnu à travers le monde aujourd'hui et qu'on a du mal à exporter puisqu'on le renie nous-mêmes chez nous en France. Donc du coup, les États, les Chinois, les Américains, les Africains, les Indiens, quand ils nous regardent, ils disent « là, il ne faut surtout pas copier la France » parce qu'apparemment, ce n'est pas le bon schéma. Et enfin, on a une hégémonie gastronomique, je dirais, qu'on a retrouvée cette année en regagnant le Bocuse d'Or, et qui permet de faire rayonner l'art culinaire à travers le monde. Et c'est quelque chose qui est là aussi fondamental. L'Alliance des Trois fait rayonner la France à travers le monde, et je pense qu'on peut en être fiers malgré tout.
Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous. Vous êtes bien évidemment en dédicace cet après-midi sur la Foire du Livre. Merci à vous toutes et tous.